Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, finalement, eh bien, les salles de spectacle et les cinémas ne rouvriront qu'en 2021, ce qui ne nous empêchera pas eh bien, de continuer à vous proposer des films à voir en VOD et DVD. Bonjour Guillaume, bonjour Manu.
Bonjour.
Bonjour.
Et donc un sommaire aujourd'hui composé de films où on va faire le grand écart. Donc toi Guillaume, tu vas nous parler Mawashigiri. Hein.
C'est ça, je vais vous parler de Jujitsu de Dimitri Logothetis.
Et puis toi, Manu, c'est un grand écart qui va nous envoyer dans les années 40.
Oui, une série B, c'est une série noire en fait, Le démon de la chair d'Edgar Ulmer.
Moi, je vous reparlerai de Ténet, le film qu'on avait attendu tout l'été et puis que maintenant, peut-être on attend sous le sapin. Et puis Marine nous parlera de Mulan, c'est la sortie alors là, exclusive sur la chaîne Disney+, film qui devait initialement sortir en salle. Ce sera l'occasion de jouer un blind test spécial remake en prise de vue réelle des classiques d'animation Disney, puisqu'il fait partie de cette petite catégorie. Alors, je vois que vous faites une tête puisque vous découvrez ce.
On va surtout découvrir les films.
Mais non, mais ça va être
la course au chef-d'œuvre.
Ce seront quand même des choses faciles parce qu'il n'y a pas énormément de films. Alors, évidemment, vous pouvez prendre de l'avance, chers auditeurs, contrairement. À vous, Guillaume et Manu, vous n'aurez pas cette liste devant les yeux. Allez, on débute avec le film noir.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Alors, Le démon de la chair s'offre une seconde jeunesse dans ce qui reste sa meilleure copie disponible chez Artus. Alors, bien sûr, le résultat est perfectible et mériterait probablement une restauration, mais comparé aux éditions précédentes, inutile de faire la fine bouche. Ce film culte auprès de bon nombre de cinéphiles, se déroulant en pleine période victorienne, est un film noir insolite, à commencer par son récit. Alors, Jenny Hager n'est pas née sous la meilleure étoile, entre un père alcoolique et une mère qui a fui le domicile conjugal, elle est à la fois la victime et le bourreau de son propre destin. Petite fille, alors qu'elle jouait avec des amis, elle tenta de noyer une de ses camarades. Mais déjà manipulatrice et séductrice, elle sauve l'enfant de la noyade, s'attribuant les honneurs des autres. Alors cette séquence inaugurale caractérise à merveille la personnalité d'une des figures maléfiques les plus fascinantes rencontrées dans un film noir. Jenny n'est pas à proprement parler l'archétype de la femme fatale telle que le cinéma américain a érigé en icône, grâce à des actrices totalement hypnotiques comme Barbara Stanwyck, Lana Turner, Jane Tierney ou encore Rita Hayworth. Jenny souffre d'un mal finalement commun, le besoin de reconnaissance, d'être aimée et adulée par autrui. Ce besoin quasi pathologique va se cristalliser aux dépens des autres, quitte à faire souffrir où elle est poussée à l'irréparable, notamment le meurtre et le suicide. Alors Jenny souhaite dans un premier temps s'extraire de sa condition prolétaire, accéder à la luxure en épousant le vieux porteur, commerçant devenu riche. Puis elle va séduire son fils et pousser ce dernier à tuer le père. Alors en apparence, Jenny incarne le mal dans toute sa splendeur. Son désir de manipuler les hommes est quasi pulsionnel, incontrôlable. Elle n'est pas machiavélique au sens strict du terme, elle n'a pas de plan préétabli. Le schéma classique du roman noir à la Chandler ou James Cain se trouve chamboulé par la description d'un personnage issu d'un cinéma fantastique à tendance gothique. Comme si Jenny était finalement le jouet d'une force divine défiant les lois de la rationalité. Alors l'action se situe par ailleurs en 1820 dans une petite ville portuaire de la Nouvelle-Angleterre. Cette ville est décrite comme un lieu de perdition où les hommes s'adonnent à l'alcool et à la violence envers les femmes. Les autorités en place ont bien du mal à gérer ce mode de vie décadent. Cette atmosphère chaotique tempère l'aspect misogyne que le film pourrait revêtir. « La religion est aussi très présente dans ce film étrange qui baigne dans un climat oppressant et de désirs refoulés. La grande force de Ulmer est de rester sur une position ambiguë, constamment ambivalente. La mauvaise graine qui dévore les entrailles de Jenny ne la rend pas complètement antipathique. Elle est humaine, consciente du mal qui la possède, elle culpabilise, mais ne peut s'empêcher d'assouvir ses envies, même les plus inavouables. Le regard de Ulmer est presque compatissant. Le moment alors complètement halluciné où le prédicateur, qui ressemble d'ailleurs à une sorte d'illuminé, d'illuminé de Dieu, s'en prend aux femmes viciées par le péché et la luxure, entretient un vrai malaise, d'autant que Jenny ne peut retenir ses larmes comme si elle était jugée à cet instant. Alors, loin du thriller mécanique jouissif, Le démon de la chair est un film bouleversant, un mélodrame finalement désespéré qui renvoie au sublime péché mortel de John Stahl. Mais aux couleurs flamboyantes de ce dernier, Ulmer opte pour un noir et blanc sombre et secret, héritage direct des ambiances expressionnistes. La séquence de l'orage où Jenny va tomber dans les bras de John Everett, impeccable d'ailleurs John Sanders, est absolument sublime. Elle porte en elle toute la puissance symbolique que véhicule un amour désiré à n'importe quel prix. Les éclairs traduisent l'intensité charnelle et érotique d'un des baisers les plus fascinants de l'histoire du cinéma. Douglas Sirk n'est pas loin finalement. La mise en scène intelligente et inspirée parvient toujours à pallier les carences budgétaires grâce à une gestion de l'espace impeccable et à un sens inouï du cadre. Eddie Lamarr trouve là sans doute l'un de ses plus beaux rôles au cinéma avec celui de la jeune femme manipulée dans l'excellent Angoisse de Jacques Tourneur. Ulmer, figure atypique du cinéma, capable parfois du pire, mais souvent du meilleur, auteur de séries B remarquables, notamment le formidable Détour qui était retransmis en salle l'an dernier, signe sans doute son meilleur film, avec aussi Le Bandit, un western déchirant et d'émotion, et Le Chat Noir aussi qui réunissait les légendaires Karloff et Bela Lugosi. Alors je répète, le film est sorti chez Artus Film, dans une collection budgétaire très abordable.
Est-ce qu'on peut être livré avant Noël ? Voilà, c'est la question.
Oui.
Oui, parfait. C'était un film attendu toute l'année 2020. Finalement, les studios Disney ont décidé de le sortir sur leur plateforme de streaming Disney+. C'est Mulan, un remake en prise de vue réelle d'un film d'animation. Le Mulan des studios Disney sorti en 1998. Après que Marine nous ait parlé de Mulan, qui est disponible depuis le 30 novembre, nous ferons un petit jeu. C'est un blind test. Il faudra donc découvrir 5 titre de remake Disney en prise de vue réelle.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Sais-tu pourquoi le phénix se tient toujours à la droite de l'empereur ? C'est son ange gardien, son protecteur. Il est à la fois beau et fort. Ton devoir est d'honorer ta famille. Penses-tu en être capable ?
Mulan est une jeune fille fougueuse qui ne tient pas spécialement à embrasser le destin traditionnel des femmes de son village, à savoir se marier et fonder une famille. Nous sommes, précisons-le, dans un contexte de Chine médiévale, du moins telle qu'elle est bien sûr imaginée par la firme Disney. Mulan est également dotée de capacités de combat hors du commun et sait se battre mieux que n'importe quel soldat, mais cette puissance, ce chi, comme on l'appelle dans la culture asiatique, est son secret le mieux gardé. Lorsque de féroces envahisseurs menacent l'Empire, Mulan décide de prendre la place de son père et de rejoindre l'armée pour se battre. Mais comment va-t-elle réussir à cacher sa vraie nature et à se faire passer pour un homme ?
Citoyens, nous subissons l'offensive des envahisseurs du Nord.
Leur chef se nomme Borika.
Il combat aux côtés d'une sorcière.
Tuez-les tous.
Par décision de son impériale majesté, un homme de chaque famille devra se dévouer pour combattre.
N'as-tu pas de fils ?
La Providence m'a donné 2 filles. Je combattrai.
Il ne reviendra pas cette fois.
Loyauté, courage, sincérité. Il est de mon devoir de protéger ma famille.
Dans la longue liste des adaptations Disney en live action, Mulan appartient clairement au bas du panier, alors que les récents La Belle et la Bête ou encore Le Roi Lion s'étaient avérés plutôt réjouissants, notamment grâce au fait qu'ils soient des remakes, quasiment plan par plan, des dessins animés originaux. Pour Mulan, les studios Disney ont décidé de réécrire l'histoire Et là, l'échec s'avère total. Il y a beaucoup de soucis d'écriture, justement, ce qui empêche les personnages d'avoir une quelconque épaisseur et ce qui empêche à leur relation de se tisser de façon crédible. Alors peut-être ne faut-il pas trop blâmer la réalisatrice Nikki Caro, hein, c'est sans doute les producteurs qui ont effectué pas mal de coupes sur un film déjà long de 2 heures, vidant ainsi l'ensemble de sa substance pour n'en laisser qu'un film à la mise en scène inexistante, dans laquelle même les scènes de combat semblent mal chorégraphiées ou mal montées. Le problème, c'est que l'on a également supprimé certains éléments qui auraient permis au film de plaire à un public d'enfants. Les personnages secondaires, tels que le dragon Mushu, initialement le compagnon malicieux de Mulan, a été supprimé. Les chansons également, alors que La Belle et la Bête ou Le Roi Lion en version live avaient fait le pari réussi de reprendre exactement les mêmes morceaux que dans les versions animées. À la place, Mulan choisit de se prendre très au sérieux en supprimant quasiment toute forme d'humour ou en le laissant tomber à plat et en instaurant également dans le scénario un nouveau personnage, celui d'une guerrière sorcière interprétée par Gong Li que l'on n'avait pas revu depuis un certain temps mais qui fait ici son retour au cinéma avec un rôle bancal empreint d'un féminisme mal assumé. Mulan hésite clairement entre être un film pour enfants et l'envie d'être une grande fresque d'aventure pour adultes. Comme il rate les deux, on se demande quel type de spectateur il pourra bien satisfaire. Ajoutez à cela que le film a connu de nombreux appels au boycott à cause du fait qu'il ait été tourné dans les provinces du nord de la Chine où sont situés les camps de travaux forcés des Ouïghours et à cause du fait que l'actrice principale Liu Yifei soutienne publiquement la police de Hong Kong. Et vous comprendrez que Mulan est officiellement un ratage sur tous les plans. On attend à présent impatiemment la version live de La Petite Sirène réalisée par Rob Marshall pour 2021.
Regardez, je suis là. Je suis Roi Mulan. Je promets de vous combler d'honneur.
Mulan est disponible donc sur la plateforme Disney Plus depuis le 30 novembre. Et si on en a parlé, c'est parce que c'était un film au départ qui devait sortir donc dans les salles de cinéma. Ça nous donne donc l'occasion de jouer à un blind test. Il va falloir donc découvrir bien des remakes en prise de vue réelle des classiques d'animation Disney. Donc qui sont tournés évidemment par Disney. C'est Disney qui se copie, hein, évidemment. Et vous avez l'air d'être inquiet, mais je pense qu'il y a plein de choses qui sont faciles à trouver.
Regarde autour de toi, petit homme. Je ne manque de rien. J'ai de la nourriture en abondance, un trésor immense. Je commande de vastes légions. Mais il y a une chose que je ne possède pas, et c'est la chose que toi, tu pourrais m'apporter. Je parle de la fleur rouge.
Mais j'en ai pas.
Tu es un petit homme, n'est-ce pas? C'est ce qui fait de toi un homme. Tu peux convoquer la fleur rouge et la contrôler.
On m'a appris qu'il faut éviter de s'approcher de la fleur rouge.
C'est trouvé, Manu.
Et c'est le Livre de la jungle.
Oui, film de 2016 de Jon Favreau, d'après le roman éponyme de Rudyard Kipling. Et donc, c'est le remake du film d'animation, Le Livre de la jungle, de 1967. Il raconte les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de loups, et qui a 2 amis, l'ours Baloo et Bagheera la panthère. Et il est menacé par le redoutable tigre Shere Khan. Et là, on entendait en fait Laurent Houtan, dont la voix était celle, effectivement, de Eddie Mitchell, hein, je pense. J'ai pas vérifier, mais je pense que c'était Eddie Mitchell. Le film remporte en 2017 l'Oscar des meilleurs effets visuels. Combien d'entrées en France, d'après vous ?
Oh, pas mal, hein, à mon avis. C'est un Disney. Donc,
c'est pas
tous les enfants de France qui y vont.
C'est une réponse, mais c'est pas celle que j'attendais.
2 millions ?
3,7 millions de spectateurs. Deuxième extrait, je vous rappelle, il faut trouver donc un remake en prise de vue réelle de classique Disney.
Et ça, c'est quoi ?
C'est qui, Majesté ?
M d'ombrage. Et où sont vos vêtements ?
Je n'entre plus dedans. J'ai beaucoup grandi et tellement vite que je dépasse tout le monde à ombrage. Et on se moque de moi. Alors je suis venue vous voir pensant que vous comprendriez ce que je ressens.
Cher enfant, lorsqu'on a une tête aussi grosse que la vôtre, on est la bienvenue à ma cour. Qu'on lui trouve des vêtements ! Utilisez les rideaux s'il le faut, mais habillez cette immense jeune fille.
Ça a été trouvé.
Et c'est le Alice de Tim Burton.
Tout à fait. Film de 2010, adaptation en long métrage de Alice au Pays des Merveilles, qui lui est daté de 1951. Alice, désormais âgée de 19 ans, retourne dans le royaume fantastique qu'elle a découvert quand elle était enfant. Et elle va mettre fin au règne de terreur de la Reine Rouge. Deux Oscars quand même. Un Oscar de la meilleure direction artistique et Oscar de la meilleure création de costumes. Et beaucoup d'entrées en France. 4,5 millions. Troisième extrait pour trouver un remake.
Le plus doux, c'est Gaston. Le plus fou, c'est Gaston. Et personne ne sait tordre les coups d'un Gaston. Un caïd qui a des chiens et des manières.
Vraiment une merveille du monde.
T'as qu'à demander à Tom Dick où Stanley. Avec toi, la terre semble plus belle et plus ronde. Personne. Gaston. Et personne n'a comme lui une fossette au menton.
J'ai un corps d'Apollon, des biceps en acier.
À quel champion ce Gaston ?
Tu as trouvé, Guillaume.
Oui, c'est La Belle et la Bête.
Oui, c'est bien ça. Film musical donc réalisé par Bill Condon, j'imagine, sorti en 2017, avec Emma Watson et Luke Evans. Il s'agit d'une adaptation donc, en prise de vue réelle du classique d'animation La Belle et la Bête, qui lui était sorti en 1991. Qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, en France, au XVIIIe siècle, le film met aux prises la bête, un prince charmant victime d'une terrible malédiction, tremblant d'amour pour la belle, une jeune fille rêveuse et passionnée de littérature. Il semble rien que ce soit le premier film de Disney à mettre en scène ouvertement un personnage homosexuel en la personne de Le Fou. Combien d'entrées en France ?
3 millions ?
3,
oui, voilà. Oui, vous êtes de plus en plus fort là-dessus même. Hein. Petite question subsidiaire, 3,5 millions d'entrées en France. Quatrième extrait de ce blind test.
Parce que je me souviens de l'histoire d'un bébé. Un bébé qu'un sort a plongé dans le sommeil et qui devait dormir à jamais.
Vraiment ? Qui ferait une chose pareille à un enfant, à un innocent ?
Eh bien... Nombreux sont ceux qui s'en prennent aux innocents. Et vous êtes bien placés pour le savoir.
Nous ? Bien placés ?
Elle veut dire nous, les humains. Il manque plusieurs fées dans la lande.
Moi, ce qui me manque, c'est du vin.
Elles ont été volées par des braconniers.
Tiens donc, première nouvelle.
Quelqu'un en a bien donné l'ordre.
C'est trouvé, Manu, puisque tu as le film en
Blu-ray. Le film en Blu-ray, effectivement. Je viens de m'en apercevoir, là. Maléfique, donc.
Réalisé par Robert Stromberg, sorti en 2014. Donc ça, c'était le cinquième remake live-action des studios Disney, avec Angelina Jolie et Elle Fanning. Il raconte l'histoire de Maléfique, donc la méchante sorcière de la Belle au Bois Dormant. Le cœur pur de Maléfique va petit à petit être transformé après une trahison, et elle est bien décidée à se venger. Combien d'entrées en France ? 2 millions.
J'aurais dit.
Oui. Eh bien, dernier extrait avec un film qui en a fait 2 millions 5. Le voici.
Attends, tu peux me faire prince ?
Attention, chaque mot est important, sois bien clair. Tu me demandes, fais-moi prince ? Ou alors, fais-moi un prince ?
Oh, non, non.
Précise bien, sinon tu vas l'avoir chez toi toute la vie.
C'est où mon palais ? Quelqu'un a vu mon palais ?
Sois précis quand tu passes ta commande. En gros, tout est question de détails.
D'accord.
Mais je comprends pas bien, si tu lui plais déjà, pourquoi tu veux changer ?
Je te l'ai dit, la loi l'oblige à épouser un prince.
J'en ai marre, je rentre chez moi.
D'accord, je peux faire ça.
Alors, au fond, c'était la voix doublure de Prince, puisque c'était un jeu de mots, fais-moi un prince. Donc, voilà, donc c'est trouvé.
C'est Aladdin.
Oui. Film coécrit et réalisé par Guy Ritchie, sorti en 2019. Il s'agit de l'adaptation du film homonyme Aladdin, sorti, lui, en 92. Et c'est l'histoire d'un charmant garçon des rues du nom d'Aladin qui cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine. Il fait appel au tout-puissant génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser 3 vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais. Et c'est comme ça que s'achève ce blind test. Donc, qui, je le répète, était réservé au remake en prise de vue réelle des classiques d'animation Disney, puisque nous parlions de la sortie en 2020, enfin, de Mulan, qui va sans doute réjouir bon nombre d'enfants. C'est un autre film qui était attendu en 2020, mais il est vraiment sorti celui-ci en salle, c'est Tenet de Christopher Nolan.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Je n'ai qu'un mot à vous donner. Tenet. Il vous ouvrira les bonnes portes, et parfois aussi les mauvaises.
Après avoir attendu Tenet tout l'été, le film est sorti le dernier week-end d'août. Hein, ceux qui ont commandé le DVD Blu-ray au pied du sapin seront servis puisque le film de Christopher Nolan est dans les bacs depuis le 15 décembre. Alors qu'est-ce que Tenet ? Eh bien, pas évident d'en donner une définition au détour d'une conversation entre le fromage et la bûche.
Vous devez vous mettre à voir le monde différemment.
N'essayez pas de le comprendre. Ressentez-le.
Alors, ne pas comprendre, ressentir, oui, on ne demande que ça. Après tout, on est face à un déluge qui promet d'être audiovisuel. Pourtant, le film de Nolan se montre bavard. C'est une tendance du réalisateur britannique. Alors, on peut tout à fait lâcher les explications, attendre un second visionnage et se concentrer sur ce qui se passe à l'écran.
Avec cette inversion du cours du temps, le fait qu'on soit ici, maintenant, ça ne veut pas dire que c'est jamais arrivé.
Redoutable paradoxe, on peut quand même tenter d'expliquer de quoi il retourne, donc un homme qui n'a pas de nom, mais qu'on appellera le protagoniste, interprété par John David Washington, le fiston de Denzel, est employé par on ne sait qui pour déjouer un cataclysme mondial qui repose sur un homme, un vendeur d'armes russe qui a la capacité de communiquer avec le futur et précisément avec des hommes du futur qui en veulent à ceux du présent. Son objectif est bien de sauver le monde et le spectateur doit juste espérer qu'il comprenne mieux le concept du temps pour mieux choisir à quel moment mettre une mandale et à qui. Christopher Nolan fait des films de genre qu'il détourne souvent avec brio. Alors la trilogie Batman pour les super-héros, la science-fiction avec Interstellar, le thriller conceptuel avec Inception ou dernièrement le film de guerre avec le clin d'œil à sa nation britannique pour Dunkerque. Pour Tenet, comme il l'a fait pour d'autres, eh bien il part du film d'espionnage et d'action pour sillonner au travers d'un récit balisé de science-fiction. C'est ainsi que James Bond version noire se frotte à Stanley Kubrick pour là, évidemment, faire un gros trait. Dans cette fiction haletante qui dure 2h30, si, comme je l'ai dit, Nolan passe un temps fou à nous expliquer comment passé, présent et futur sont imbriqués, il n'oublie pas que son personnage doit avant tout sauver le monde avec les gros moyens qui sont à sa portée. Ainsi, on sacrifie un vrai avion venant défoncer un hangar pour faire diversion. On voit également une course-poursuite en plusieurs temps avec trois types de camions utilisés. Cette séquence alors, est particulièrement bien orchestrée, me semble-t-il inédite à l'écran. Mais parler de Tenet sans parler de la forme de son récit, c'est oublier ce qui fait le nerf fictionnel de la dernière partie du film, qui nous fait faire bien des allers-retours temporels. C'est-à-dire qu'on ne va pas précisément dans le passé ou le futur, on insiste à des renversements temporels, à la manière du titre du film qui est un palindrome, donc qui se lit dans un sens comme dans un autre. On a également la séquence clé qui va se dérouler dans un sens et dans l'autre, mais dans la même durée cinématographique, dans la même durée de récit. On nous donne à voir ce qui se passe et ce qui s'efface en quelque sorte. Alors cette forme est assez magistrale, mais pourra sans doute en agacer certains, trouvant là une matière à superflu. Mais ainsi va le cinéma de Nolan. Il avance avec un concept simple qu'il pousse jusqu'au bout. La perte de la mémoire à n'en plus finir dans Memento, la manipulation des rêves dans Inception, et ici, eh bien, c'est l'inversion du temps. Alors ce Tenet, malgré son verbiage qui peut paraître parfois indigeste, bénéficie d'une mise en scène qui s'appuie sur un montage déconstruisant le récit. Il y a quatre acteurs principaux. Alors John David Washington, un étonnant Robert Pattinson, un méchant presque réussi, interprété par Kenneth Branagh, et une Elisabeth Debicki qui pleurniche beaucoup. Alors je ne pense pas qu'on puisse s'ennuyer à voir Tenet. Il faudrait d'ailleurs le revoir pour bien comprendre eh bien, tous les ressorts de l'histoire, mais il faut se préparer à être assommé de concepts métaphysiques au milieu de scènes d'action particulièrement jouissive. Alors je sais que toi, Guillaume, tu ne l'as pas vu, mais que toi, Manu, tu l'as vu, pas forcément apprécié.
Non, je ne suis pas très emballé par ce film que je trouve qu'il y a beaucoup de d'esbrouf. Après, je ne vais pas en dire du mal parce que le film sort et que ça va faire des jolis cadeaux de Noël. On peut dire ça. Non, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est un film finalement très lourd et le côté. Le bavardage bon, empêche finalement de rentrer dans un film d'action qui pourrait être plaisant. Mais je trouve que voilà, le scénario, pour moi, il ne tient pas vraiment la route.
On va garder ça pour les effets visuels de Noël.
Mais si on n'aime pas, est-ce qu'on peut remonter le temps pour se faire rembourser ? Ça, c'est une bonne question, je pense.
On va maintenant terminer avec des vrais nions, je crois, hein, pour Jujitsu. Et c'est toi qui, après nous avoir parlé de Van Damme, va nous parler de ce film, Guillaume.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
We get a visitor from a distant galaxy. Poet warrior in the sci-fi sense. The spaceman.
On aurait pu croire que le temps des castagnures prendrait fin hein, avec la chute des vidéoclubs, mais certaines choses, et surtout certains héros, ne veulent pas mourir. Le studio de la Canon a eu beau fermer ses portes à l'orée des années 90, il a eu le temps de paver la voie et de faire des petits. Nuit Image, par exemple, qui de petite production en petite production est devenu Millennium Film, par exemple. Jonglant avec les mêmes ingrédients entre ninja et gros bras, hein, héros d'acier au cœur pur hein, face à des ennemis barbares et sans pitié, elle aura même ramené temporairement au sommet du box-office Stallone et tous ses copains le temps de plusieurs Expendables. Dimitri Logothetis est de cette espèce. Le gréco-romain avait déjà repris les rênes de la série des Kickboxers en 2016 en produisant Kickboxer Vengeance, un remake de l'original qui mettait en vedette le cascadeur canadien Alain Mussy dans le rôle de Kurt Sloan, tandis que le Kurt Sloan d'époque, dont Jean-Claude Van Damme, endossait le rôle du maître qui allait apprendre toutes les ficelles du combat à son apprenti en vue d'étaler toujours l'affreux Tong Po. Réalisé mollement par John Stockwell et avec la star Dave Bautista, hein, que vous avez sûrement vu dans Les Gardiens de la Galaxie, dans la peau de Tong Po, ce n'était pas encore la grande fête, mais l'enthousiasme était là et la balle désormais bien ancrée dans le camp de Logothetis. Parce que de producteur, il passera derrière la caméra hein, pour la suite de 2018, Kickboxer l'héritage, et poussera tous les compteurs à 11. Hein, montre en main, sur 1h45 de film, au moins 1h et 30 minutes sont consacrées à de l'action pure et dure, avec une énergie visuelle qui n'aurait pas renié le Albert Pyun de Kickboxer 4. Et surtout, avec un duel improbable au sabre et au poing entre Van Damme et Christophe Lambert, proche de la retraite mais toujours facétieux. Alors du coup, quoi faire hein, en attendant l'annoncé Kickboxer Armageddon? Ben justement, hein, reprendre une bonne partie de l'équipe pour un nouveau projet intitulé Jiu-Jitsu. En Birmanie, tous les 6 ans, une comète passe, un vortex se crée dans un temple et un guerrier de la mort en sort. Cet être terrible, c'est Drax, un extraterrestre qui n'a de cesse de convoquer les meilleurs combattants de Jiu-Jitsu, art martial qu'il a lui-même amené sur Terre il y a des millénaires, pour entretenir ces espèces de tournois, ces Mortal Kombat avant l'heure. Chacun de ces combattants doit être bien préparé et surtout comprendre l'adversaire qu'il a en face de lui, car la bestiole céleste a une capacité de camouflage et de régénération qui ferait hurler tout arbitre sensé hein, dans le cadre d'une compétition légale ou légitime, à vous de choisir. L'enjeu, c'est bien évidemment l'avenir de l'humanité, hein, sinon ça ne serait pas drôle. Alors on le voit, on a beau rester dans les pays d'Asie du Sud-Est et conserver la castagne, le nouveau long-métrage de Logothetis se part pour l'occasion d'un revêtement de science-fiction et de mysticisme qui tranche avec le côté naturaliste des films précédents. Cette orientation pulp est d'entrée suggérée via le générique, hein, reprenant une esthétique de comic book qui nous plonge directement dans le bain. Si on songe que Jiu-Jitsu marche grandement hein, sur les terres sacrées du Predator de John McTiernan avec son alien chasseur, ce générique nous rappelle instantanément que son producteur Joel Silver a toujours voulu adapter le comic book Sergeant Rock, hein, BD que lisait d'ailleurs l'un des mercenaires du film de McTiernan avant de se faire dessoudre. La boucle est donc bouclée et nous pouvons donc nous intéresser aux apports nouveaux que propose ce nouveau combat. La grande force de frappe du film, c'est son casting assez impressionnant pour ce qui reste une production quand même assez modeste. Derrière Alain Mussy, fidèle au poste et qui cherche de film en film à améliorer sa palette de jeux, il y a du beau monde. Tony Jaa d'abord, l'athlète révélé en Occident par ses prouesses dans Ong Bak. On note aussi Franck Griot, passé de Wes Craven à Catherine Bigelow et aussi du côté de Captain America. Vous l'avez peut-être vu aussi dans American Nightmare 2 et 3. Il y a Harry Ki-Yun, le méchant mémorable de la C'est Fou, James Bond meurt un autre jour, qui a d'ailleurs une réplique qui fait clin d'œil à la saga hein, lorsqu'il prononce un « I've got a license to kill you » assez savoureux. Et bien sûr, parce qu'il a été largement mis en avant lors de la promo, hein, on ne peut passer à côté de la présence de Nicolas Cage. L'acteur au choix de carrière étonnant, hein, parce que ça coûte cher un divorce avec le clan Presley, n'est pourtant pas qu'un appât pour faire gonfler l'audience du film, mais a droit, en plus de tirades philosophiques assez étonnantes, à des scènes de combat, dont une très longue, contre la fameuse créature. Comme quoi, de Las Vegas à la jungle birmane, Nicolas assure toujours le spectacle. Alors, comme d'habitude, chez Logothetis, la caméra n'est pas vraiment virtuose, mais ose et surprend. On est par exemple plongé au cœur d'un combat à main nue en point de vue subjectif. C'est efficace, percutant, comme la plupart des affrontements qui compensent la baisse de rythme après une première partie soignée, signe que le film n'a plus grand-chose à dire une fois que les bases sont exploitées. En définitive, on peut penser ce que l'on veut de ce genre de production, mais il faut bien se rappeler qu'elles ne sont pas forcément plus calibrées que d'autres, qui sont elles plus glorieuses et fortunées. Et surtout qu'en cas d'apocalypse sanitaire, extraterrestre ou fasciste, elles auront été les seules à nous prévenir de ce qu'il fallait faire depuis tout ce temps.
Et donc, oui, Tatami 4 la semaine prochaine, plus Atomic Cyborg 26.
32, ouais.
Mawashi Lateral 29. Voilà.
Non, mais je pense à cette séquence qui est très alléchante donc d'une caméra subjective lors d'un combat à main nue. Voilà, rien que ça, ça me donne très envie. J'espère que vous, chers auditeurs, aussi.
Ne faites pas ça à la maison, c'est des professionnels.
Au revoir.
Au revoir.
Mais pour quelle raison?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon?
Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est difficile de répondre,
comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie!
Voilà, cette émission pré-Noël s'achève. La semaine prochaine, ce sera l'émission de Noël. Et vous avez prévu quoi?
Mais une nouveauté Netflix, The Call, un film coréen.
Et toi?
Ben moi aussi Netflix, mais du côté Italie, pour l'incroyable histoire de l'île de la Rose de Sydney Sibilia.
Et on jouera aussi à un blind test avec des films qui se déroulent à Noël.